Le festival d'amour. Je saupoudre tout ça d'un désir faussement romantique, puisque de toute façon je joue un rôle, que j'aime l'idée d'aimer et que j'adore l'état romantique. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Erika Nomeny à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'amour de nous-mêmes » aux éditions Hors d'atteinte. C'est parti. Bonsoir Erika.
Bonsoir Chozik.
C'est un livre finalement qu'on n'avait jamais lu. Moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a fait te choisir pour le Festival d'Amour, c'était vraiment en fait toute la réflexion que tu mènes, mais très profondément en fait, dans la vie intime, amoureuse et de désamour de l'héroïne Aloé, qui en fait va nous présenter ici ses lettres. C'est un roman épistolaire, presque sans réponse. Comment tu t'es dit que ça allait commencer comme ça ? Que ça allait être des lettres sans réponse ? Ou en tout cas, que le lecteur et les lectrices n'auront jamais ces réponses, en fait, à ces lettres ?
C'est la forme qui me semblait la plus simple pour moi. Au début, je n'ai pas commencé comme ça. J'avais envie de faire une histoire afro-futuriste. Et donc, le personnage devait se retrouver à l'an 4000. Du coup, un roman habituel, un peu style science-fiction. Mais j'étais pas très à l'aise parce que j'ai envie d'aborder plein de thèmes, comme dans le livre. Et je me voyais mal transposer tout ça à l'an 4000. Il y avait trop d'éléments à recréer, trop de trucs à changer. Et du coup, cette forme m'a semblé naturelle. Parce que j'ai aussi écrit beaucoup de lettres dans la vraie vie. Vu que j'avais déjà fait dans la vraie vie, je me suis dit pourquoi pas en faire un roman.
Mmh. Ouais. Mais ce qui fonctionne assez bien, c'est que en fait il y a cette adresse, donc de dire voilà, aujourd'hui je suis comme si j'ai vécu ça. Mais tout de suite, on a aussi en fait une impression un peu de journal intime, c'est-à-dire que ton personnage va vraiment aller au fond de ce qu'elle vit, et surtout sans hésiter à revenir sur les histoires de son passé. Mmh. Et il s'avère que ce qu'elle nous raconte beaucoup, c'est ces histoires d'amour et de désamour. Et il y a quelque chose vraiment de reconstruire un personnage à cet endroit-là. Le titre du livre, tu l'avais immédiatement ? Ou c'est plutôt à la fin d'avoir tout écrit que tu t'es dit, c'est au final, tout ce que j'ai raconté, c'est ça, l'amour de nous-mêmes.
Au début, je voulais l'appeler le marché de l'amour, mm-hmm. mais mon éditrice m'a dit que que ça allait être compliqué parce que le marché de l'amour fait aussi référence au travail du sexe, tout ça, et que les gens risquaient de se perdre dans ce que je voulais dire. Et on a trouvé ensemble l'amour de nous-mêmes, et c'était en référence à la phrase de Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Et du coup, vu que je parle aussi beaucoup de racisme dans ce livre, j'avais envie de faire un clin d'œil. On a trouvé ça chouette de faire ce clin d'œil un peu à Aimé Césaire.
Et ça participe totalement, je trouve, à proposer une certaine... alors, je n'allais pas dire solution, mais en tout cas une voie pour penser l'amour autrement. Puisque à plusieurs reprises, Aloé va vraiment se questionner sur mais comment... En fait, je peux être aimée quand moi je ne m'aime pas. Comment je peux aimer quand, encore une fois, je ne m'aime pas suffisamment. Et cette place-là, en fait, de l'amour comme une sorte de ping-pong ou de miroir, c'est finalement peut-être la quête d'une vie entière. Mais ce qui est hyper appréciable, c'est que de lettre en lettre, et donc d'histoire d'amour et de désamour, on va découvrir en fait ce que ces histoires vont faire à l'estime d'elle-même. En fait, parce que c'est surtout ça qu'elle nous explique, j'ai l'impression, c'est de dire telle personne va venir appuyer là où ça fait mal ou là où ça fait du bien, mais en tout cas, à un moment donné, ça va bousculer en fait, la personne qu'elle était avant l'avoir rencontrée et que le désamour arrive. Ces multiples histoires d'amour, elles sont quand même un peu nombreuses, c'est pas non plus trop, si on pourrait en avoir trop, mais en tout cas, on suit bien la chronologie. C'est comment elles se sont construites dans ton récit ? C'est-à-dire que on peut imaginer, je sais pas, T'avais tes petits post-it, alors il y aura Mario, il y aura Rose, Chloé, papapapam, et puis ça va se... elles vont se rencontrer comme ça, etc. Enfin, on imagine, dans les constructions de romans, on peut imaginer des choses assez cinématographiques, quand même. Est-ce que c'était comme ça, ou au contraire, en fait, tu es vraiment allée de lettre à lettre, et au fur et à mesure de l'inspiration de ce personnage, tu lui as fait rencontrer des personnes... au moment où l'état lui permettait, en fait.
J'ai construit l'histoire à partir aussi d'une rupture où je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui ne va pas ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler de ça. Et ça m'a permis d'avoir une réflexion, de me dire, en fait, déjà, j'ai envie d'écrire ce livre parce que j'aurais aimé le lire à 20 ans. Et du coup, parler d'une meuf noire dans la société actuelle française, tout ça. Et du coup, ma réflexion s'est construite à partir de cette rupture où je me suis dit, ben, y a un truc qui ne va pas. Et avant cette rupture, je me disais déjà qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et du coup, cette rupture avec une personne m'a permis de créer un peu cette histoire et m'a permis de me dire, en fait, j'ai envie que l'histoire se déroule comme ça et que ça se suit un peu de manière organique.
Mais il y a quelque chose d'assez aussi touchant de voir, en fait, les tentatives. De se dire, en fait, il y a eu une première personne, et puis ça a débouché sur une deuxième personne, et cette troisième personne qui rappelle un peu la première. Enfin, il y a quelque chose comme ça, du chemin d'amour, qui est un exercice qui peut être, en effet, extrêmement déstabilisant, parce que j'imagine qu'on doit aussi se rendre compte de... tout ce qui est en commun. Et puis, puisqu'il y a des amours, forcément, c'est peut-être pas les choses les plus intéressantes, ou j'en sais rien, mais de personne à personne. Mais en tout cas, d'avoir, en fait, ce travail de recul, est-ce qu'on a... Enfin, ma question, c'est vraiment ça, c'est est-ce qu'au final, ce travail-là, à partir d'une rupture et d'aller en imaginer d'autres, est-ce que c'est pas une excellente façon, en fait, de comprendre son chemin amoureux? De début à pas fin, parce que bah, la fin n'existe pas encore, mais en tout cas, d'essayer comme ça d'aller expertiser sa vie amoureuse, ça a créé quel type de dynamique pour Aloé, pour toi ?
Désolée, je n'ai pas bien entendu.
Ça, c'était formidable. Nous avons Siri qui nous écoute. Désolée, tu n'es pas conviée, désolée. Donc donc oui, le chemin amoureux d'Aloé, qui part, on l'a quand même bien entendu, de ton expérience personnelle.
Oui, oui.
Tout ce travail-là qui est un petit peu thérapeutique,
oui,
quand même.
C'est ça.
Donc est-ce que tu nous conseilles d'aller...
De rompre.
Alors rompre. Oui, d'accord. Mais surtout d'aller voir comme ça dans les passés... d'aller vraiment consulter ce que nos ex nous racontent.
Oui, oui, d'aller consulter ce que nos ex nous racontent, mais aussi d'aller consulter ce que la société nous dit sur nous, ce qu'on a vécu aussi durant l'enfance, comment on a été aimé. Je parle aussi du fait d'être un enfant queer et de comment en fait on a dû apprendre à se cacher déjà dès l'enfance et des violences qu'on a pu subir et qu'on n'a pas pu identifier et qui fait que finalement... Arrivé à l'âge adulte, on se dit, est-ce qu'on est digne d'amour dans une société qui nous répète sans cesse que, entre parenthèses, qu'on est un peu des merdes, quoi. Et du coup, c'est compliqué. Il y a les histoires par rapport à toutes ces personnes que Aloé aime ou dont elle est tombée amoureuse ou avec qui elle a eu des histoires. Mais il y a aussi la partie communautaire, la partie familiale. Aloé aussi a eu un parcours militant, elle a fait partie de groupes en non-mixité afro-féministe et tout, où elle a cherché quand même encore cette forme d'amour communautaire et elle a buté face à plein de choses. Et du coup, il y a ce truc des relations amoureuses qui occupent une place importante, mais après il y a la relation familiale, la relation à soi, l'estime d'elle-même, qui progressivement s'est perdue avec le temps parce que la société, parce que la vie, parce que plein de choses qui lui sont arrivées, quoi, les traumatismes, tout ça.
Oui, parce qu'évidemment, on n'aura pas uniquement ces histoires d'amour et de désamour. c'est en effet toute sa vie, en fait, qu'on découvre lettre après lettre. C'est un personnage qui va en effet questionner sa place dans la société, et comme tu le disais, donc c'est un personnage, c'est une femme cis, queer, lesbienne, en surpoids et précaire. Et
oui, c'est ça.
C'est ça.
Oui.
Et donc, chaque oppression mise l'une à côté de l'autre, en fait, il y a quelque chose aussi d'une image de ces personnes en marge qui, généralement, ne font pas partie des fictions. C'est quelque chose dont on avait discuté avec Christelle Murula l'année dernière, et de vraiment questionner cette place-là de l'imaginaire, en fait, et de se dire mais que c'est la norme qui attire. Donc on a spontanément, en fait, dans tous les récits, le même type, en fait, de personne qui nous est raconté. Ici, tu insistes beaucoup, en fait, sur ces endroits d'oppression du personnage principal. Bah, on sent bien que c'est un terrain, évidemment, de douleur, de chagrin, en fait, de se dire, mais en fait, j'aurais beau, parce que le personnage le dit souvent, j'aurais beau faire tout ce que je veux, je serai toujours, en fait, cette femme cis, queer, lesbienne, en surpoids et précaire. Et donc, à chaque fois, on va me renvoyer, en fait, cette image-là. De se plonger dans ce personnage, ça n'a pas dû non plus être de tout repos, parce qu'il a fallu, j'imagine, aller chercher ces endroits d'oppression, connus ou pas connus de toi, mais en tout cas de personnes, je suppose, qui autour de toi les ont vécues, ou ça a dû être des endroits... Enfin, c'est là où la fiction, parfois, peut être aussi difficile à écrire. C'est qu'il faut y aller à fond, en fait. On peut pas être à moitié dans ces oppressions.
Oui. Bah, ouais, j'avais pas envie de faire un essai comme a pu le faire Christelle Murula. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai découvert son livre il y a pas si longtemps, et c'est Amour silencieux, si vous voulez le lire. Et j'ai commencé, mais j'ai pas encore terminé. Et je trouve ça super chouette ce qu'elle raconte dans son livre, parce que c'est drôle. Elle, c'est un essai, et moi, c'est un roman, mais on parle de plein de choses. Bon, voilà, qui sont assez similaires, et c'est drôle de se rendre compte de ça. Et ce que je voulais avec la fiction, c'était vraiment que tout le monde puisse s'identifier, et pas juste qu'on se dise « Ah, c'est mon histoire, c'est... » Parce qu'en fait, on est plein de personnes à vivre ça. Je ne suis pas la seule, même quand j'interroge mes potes trans, ou quand j'interroge d'autres femmes noires, et je me dis en fait, c'est incroyable. Par exemple, hier, j'étais à une... à une présentation du livre à Bruxelles, et la maman de la personne qui m'a invitée, Doulia, c'est une femme noire congolaise. Je parle du fait que les femmes noires sont des féminités pas hégémoniques, donc des féminités de la déviance un peu mise de côté, parce que souvent quand je marche dans la rue, on peut me mégenrer. Alors que, bon, oui, c'est vrai que oui, je peux paraître un peu genre masculine, mais quand même. Et même avec des meufs noires qui sont très féminines, on les mégenre quand même. Et ça a fait référence, et ce que j'ai dit a fait écho à cette femme congolaise qui me dit, mais en fait, une fois, j'avais vu Louis de Funès, gendarmette ou gendarme, je sais pas quoi, gendarme à Saint-Tropez, quelque chose comme ça. Et dans une de ses blagues, il dit bonjour à une femme gendarme, une femme blanche. Ensuite, il dit bonjour à une autre femme blanche. Et quand c'est arrivé à la femme noire, il dit « Ah, bonjour, monsieur !» Après, il fait « Ah, non, 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 non !» Et c'est drôle, ce que tu me dis, en fait, m'a fait penser à ça. Ouais, la fiction, c'était vraiment pour que tout le monde puisse s'identifier. Et aussi pour, même moi, avoir, en tant qu'auteur, aussi de la distance avec ce que je dis. Voilà. Ou des fois, quand on parle des choses... Parce que ce livre, il est très intimiste. Très intime, du coup, ça peut être compliqué de se revoir vivre des événements traumatiques, quoi.
Mais c'est ça, ouais. Parce que, enfin, Aloé, on nous dit tout, absolument tout, et donc de ces moments très beaux, en fait, des premières rencontres, des émois, des rêves, etc., mais aussi, en fait, ce mal qui la ronge vraiment très fortement, et je pense qu'en effet... l'écriture que tu as est très authentique. Et ça peut paraître parfois un petit peu trouble. Malgré tout, en fait, je pense qu'il est tellement chargé émotionnellement, ce livre, que je peux comprendre qu'Aloé existe. De se dire, en fait, on va y aller un peu en distance parce que bah, c'est du un matériau pur, quoi. On y va direct. Et d'autant plus intéressant au sujet de ces oppressions, au sujet de cette identité, il y a une quête aussi identitaire hein, tout au long de savoir, elle sait qui elle est, mais elle sait pas trop comment être qui elle est, en fait, auprès de tout le monde. Et tu as cet endroit qui, je trouve, est assez important de parler de performer, en fait, sa féminité, performer son genre, performer sa race et performer son lesbianisme. Cet endroit-là de performer, en fait, son identité, tu l'as travaillé comment au fur et à mesure du roman ?
Pour moi, ouais, c'était important de dire que on est tous un peu dans... Bon, bah, par exemple, j'ai appris à devenir lesbienne. Genre, j'ai pas... Genre, je suis vue dans une société hétérosexuelle et du coup, c'était... Genre, on n'a pas de manuel. Du coup, quand on découvre qu'on est qui on est, bah, on apprend à l'être. Et surtout dans certains milieux, en fait, des fois, on a des codes. Du coup, on récrée de nouveaux codes pour pouvoir se faire accepter. Parce qu'on est rejeté de l'autre côté. Et du coup, pour moi, c'était important de montrer que Aloé, c'est un être humain. Et que tout ça, finalement, c'est des constructions. Parce que quand par exemple, je suis née au Cameroun. Et au Cameroun, genre, je suis la norme. Donc, quand je suis avec d'autres Camerounais, je ne suis pas noire. Je suis juste moi. Et ça commence à devenir un problème d'être moi quand ils découvrent que je suis lesbienne parce que c'est interdit au Cameroun. Mais en fait, on vit dans plein de constructions et c'était important de dire que... Pour moi, en fait, ce que j'essaie de dire avec ce livre, c'est que Aloé est un être humain. Et que comme tout être humain, bah, elle aspire juste à être aimée et à aimer en retour. Voilà.
On a parlé d'une petite lecture. C'est le moment.
D'accord, ok. Je n'ai jamais été à fond sur les White Beach. Ces meufs blanches qui ne perçoivent pas leurs propres privilèges. Même si elles sont pour moi, quand même, moins pires que les Karen. Les Karen sont vraiment des racistes assumés, qui vont parfois jusqu'à se déguiser en gauchos. Mais les blanches sont majoritaires dans les milieux queer féministes, et c'est un peu compliqué de faire sans. Il y a 10 ans, je devais avoir 18 ans. J'avais confié à mon pote Jules, un blanc métis franco-espagnol, que j'aimais bien une Renoir. Très surpris, il m'avait dit « Je pensais que tu étais comme moi, que tu ne couchais pas avec les Noirs. » Je lui ai juste répondu que j'aimais les Renoirs aussi. Quand j'y pense, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour traîner avec des gens si ouvertement racistes, à l'époque où j'avais des amis dans le Marais à Paris. Je me dis souvent que ça s'explique par la solitude dans laquelle j'étais à l'époque. J'étais jeune et naïve. Je me convainquais que du fait qu'il ne pensait pas ce qu'il disait, y compris quand il me demandait de faire l'accent africain, comme si l'Afrique était un pays, ou déclarait que je n'étais pas trop une fatou, car je n'étais pas trop noire. De toute façon, les 3/4 du temps que je passais avec ses potes, j'étais foncedée à la vodka, ou au rhum, ou au vin. Je n'aime pas la bière, même si au début je buvais des Maximator, la bière la plus dégueu du monde. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, comme le fait que Jules soutienne l'UMP et ait voté Sarkozy alors qu'il était gay. Je pense que mon envie de me sentir appartenir à un endroit, à une communauté, m'a souvent fait accepter trop de choses.
Merci. Mais là, c'est un extrait qui nous plonge directement en fait, dans des époques précédentes, donc là, la vingtaine, et de la violence aussi que ce personnage a accepté pendant longtemps, parce que de tous ces faits racistes, de personnes, d'amis. Et c'est vrai que tu vas, tout au fil du livre, questionner aussi ce principe d'amitié. Et je trouve qu'il est assez intéressant, en fait, de voir par rapport à Mario, par exemple, Amimour.
Amimour, c'est ça, ouais.
Amimour.
Ouais, l'amimour. C'est un mot qu'on a inventé ensemble. C'est un mélange entre amitié et amour. On a remarqué que dans les relations queer, il y a beaucoup de personnes qui ont des relations comme ça, où en fait, soit c'est des personnes qui ont des relations platoniques avec leurs amis, et du coup, en même temps, une relation de couple, ou des fins de relations de couple qui se transforment en relations platoniques, où c'est vraiment... Et je sais pas si c'est parce qu'en fait, la société fait que, bah, en fait, quand tu sors avec une personne, c'est pas comme quand t'es hétéro, et du coup, finalement, vous voyez plus, parce que voilà, les hétéros, il y en a plein. Je sais pas du tout, mais du coup, on a commencé à questionner ça, et se dire, en fait, et si on créait un mot qui nous représente, qui représente vraiment ce qu'on ressent l'un pour l'autre, et on a créé Amimoire. Cette relation entre amour et amitié.
Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on suit l'arrivée de Mario dans la vie d'Aloé. Moi, je reste au prénom fictif, etc. Hein,
oui.
T'as remarqué. Et donc, on suit l'arrivée de cette personne dans un rassemblement de lutte.
Ouais, c'était dans une réunion féministe.
Voilà, et les premières rencontres, et comment il y a une intimité qui va s'instaurer pas à pas, et le type de relation qui va naître de ça. Puis, le moment où Mario commence sa transition, et l'Amimour montre bien, en fait, comment on peut penser, en fait, l'endroit des amours. Et ça, je trouve qu'on a un endroit super intéressant pour l'avenir, puisqu'on cherche quand même nos futurs désirables, n'est-ce pas? Est-ce que toi aussi, tu penses que ce genre de relation peut changer le monde?
Totalement, sinon on n'aurait pas inventé ce mot. Et puis pour moi, c'est vraiment une personne importante. Tu vois, pour Aloé, Mario est vraiment une personne importante. Et du coup, l'amour, c'est quelque chose qui compte. Et vraiment, et c'est dommage qu'on fasse pas attention à ces amours qui ne sont pas. Parce que j'ai l'impression que l'amour aussi, c'est comme ce que le personnage essaie de dire, et mes réflexions aussi en tant qu'autrice, c'est quelque chose de construit. Qui tu aimes va vouloir dire beaucoup de choses sur toi, et c'est pas... c'est pas aussi naturel qu'on le croit, et je sais plus c'est quelle femme disait ça, que genre, l'hétérosexualité, c'est un régime, je sais plus, c'est... Modigotique, ouais. Et du coup, en fait, beaucoup de choses sont construites. Et même, même les attirances qu'on a et tout. Ce dont se rend compte Aloé dans le livre, c'est que souvent, elle était à fond sur des meufs blanches, cis, de classe moyenne, de classe supérieure. Et que quelque part, ce qu'elle voulait avoir, c'était une validation. Et au-delà de ça, il y a aussi le cercle dans lequel elle traîne, qui est très blanc et culturel, militant, tout ça. Et du coup, c'est dommage que quand cet amour, l'amour qu'on peut avoir entre individus, n'est pas quelque chose de... je dis entre parenthèses normal, ou qui sert à faire une reproduction de la société, quand c'est pas ce genre de d'amour qui est catalogué, catégorisé pour la reproduction, en fait, on le valorise pas, et tout le monde fait comme si ça n'existait pas, alors qu'il y a plein de formes d'amour différentes, et même juste aussi, pas forcément l'amimour, mais mes relations amicales comptent aussi beaucoup pour moi. Et même dans les relations amicales, il y a ces hiérarchies, et l'amour comme l'amitié, c'est lié.
Mais ça fait partie, je pense, des vraies révolutions. Et j'ai l'impression quand même que petit à petit, sans être forcément dans la communauté queer, on commence à en entendre plus parler, et en tout cas à valoriser ces relations-là, notamment par les cercles de femmes, qui ne sont pas forcément vers de l'amitié, mais qui malgré tout, quand un cercle d'amis ou de personnes commence à se parler, en fait il y a une intimité nouvelle aussi petit à petit qui se met en place. Enfin, j'ai l'impression que les féminismes ont permis aussi peut-être ces paroles-là et ces ouvertures-là. Et de fait, on peut que espérer ça, qu'à force, en fait, d'être de plus en plus intime, oui, mais en même temps vrai, sincère, en fait, avec d'autres personnes que supposément l'amoureux ou l'amoureuse, quel bonheur que de ne pas être qu'à deux, non ?
Oui, oui, quel bonheur. Mais le problème, en fait, c'est que, comme le montre le personnage dans le livre et tout, l'amour, l'amour ou l'amitié, il y a des hiérarchies. Et à un moment donné, le personnage dit que ce qu'elle attend juste, c'est qu'on la voit comme un être humain. Et juste pour avoir ce statut, c'est tellement difficile. Mais c'est incroyable, parce que personne n'échappe aux normes, même en voulant les déconstruire, même en luttant contre ça. Et il faut apprendre à avoir ses normes, mais aussi être doux avec soi-même. Et c'est un apprentissage, Et ce qu'on peut voir dans le film, dans le livre, c'est que Halloween n'est pas la même il y a 10 ans qu'il y a maintenant. Et du coup, il y a une évolution aussi, et il y a des prises de conscience qui se font, et qui finalement, des fois, ne peuvent se faire qu'avec du temps.
Oui, c'est ça, on est vraiment sur un roman épistolaire d'apprentissage amoureux, plus.
D'apprentissage d'amour.
Apprentissage d'amour. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi de la puissance d'être qui lui arrive, parce que de l'expérience vient aussi le fait que, oui, j'existe, en fait, et ça va être sous mes conditions, parce que c'est moi qui aime et qui veux être aimée d'une telle manière, même si tout n'est pas résolu. Enfin, tu fais pas une fin, c'est bon, happy end, tout va bien. Il y a encore du questionnement, il y a encore des choses à venir, mais il y a quand même, j'ai l'impression, une sorte de stabilité, elle est sur ses deux pieds. Et ça, c'était déjà pas facile, et pas gagné d'avance,
ouais,
peut-être.
Ouais, exactement. La difficulté que j'ai eue à écrire et tout ce roman, c'était vraiment de me dire qu'il fallait que j'apporte une fin, une résolution au problème. Et c'était très compliqué de terminer ce roman parce que je n'avais pas de solution. la solution, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps à tout le monde. Ouais, il faut s'aimer soi-même, naninana. Un truc un peu basique, hein, mais qu'on comprend pas tous de la même façon. Ouais, mais on voit quand même l'évolution et on sent qu'il y a quand même une note d'espoir. Parce que des fois, la société est tellement noire et ce qui nous arrive est tellement grave qu'on peut perdre espoir. Et du coup, ce que j'ai envie de dire aussi avec ce livre, c'est qu'il faut continuer à croire, quoi. Ouais, il faut avoir de l'espoir.
Mais oui, mais tout à fait. Est-ce que on peut parler de la fin? Quel est ton mot là-dessus? On parle de la fin ou on parle pas de la fin?
Non.
C'est là où tout l'art de dire sans dire arrive. Parce que ça reste une fin très intéressante. Non, mais je ne vais pas du tout me lancer. On aime particulièrement le suspense. Au bout d'un moment, on se demande quand même qui est la personne à qui elle écrit. Parce qu'on sent qu'il y a des réponses qu'on ne nous donne pas, puisque le personnage...
Oui. Aloé.
Aloé répond à des choses qu'elle lui aurait écrites, donc on comprend un petit peu. La solution que tu as trouvée pour cette fin, elle est assez forte et audacieuse. Merci.
Merci à toi aussi, merci.
Non mais vraiment, vous verrez, on en reparlera. Mais... on comprend mieux de ce fait dans tout cet endroit où comment on finit finalement un livre de fiction. Et c'est vrai que l'une des pistes que l'on a ces derniers temps, et notamment grâce au livre de Colline Pierret, Éloge des fins heureuses, je ne dis pas que c'est une fin heureuse, je n'ai pas dit ça. juste que, en fait, questionner la façon dont on finit nos fictions, c'est revenir à ce qu'on a dit sur les imaginaires, etc. C'est qu'en fait, ça permet de faire exister d'autres formes de fin. Parce que si on imagine, comme tu le dis, que du noir et du désespoir et des amours tragiques et des choses comme ça, en fait, comment on peut en sortir? Puisqu'on pourrait partir du principe que c'est toujours le cas, que c'est la norme, que ça en devient la norme. Dans ton expérience cette fois-ci de lectrice, est-ce que tu apportes une importance aux fins?
Du coup, pour toi, c'est une fin heureuse, alors?
Puisque je ne peux pas parler de la fin, je parle d'autres fins. Voilà.
D'accord.
Comme ça...
Ok. Mais en fait, j'avais aussi envie... Pour moi, les fins heureuses sont importantes, mais après, ça dépend aussi du sujet. Et je crois que, vu que... À la base, je voulais faire une histoire afrofuturiste. Pour moi, c'était important de... que ce soit pas quelque chose de dystopique. Ouais, parce que la réalité dans laquelle on vit est déjà assez hard. Donc, rajouter encore plus de hard, je sais pas. Si on peut, c'est aussi, j'avais aussi envie qu'on puisse s'évader un peu. Mm-hmm. S'évader, qu'il y ait de la légèreté, parce que dans ce livre, il y a beaucoup d'amour et de désamour. Mais c'est aussi très. Voilà, il y a aussi beaucoup de violence, il y a de la lumière, mais il y a aussi de l'ombre, il y a de l'obscurité. Et j'avais vraiment envie que pour cette fin, on soit dans une nouvelle ère d'utopie. Mm-hmm. Ouais, parce que j'avais un peu marre de la dystopie.
Allez, C'est le moment de notre question de la fin. Quelle serait pour toi, ou pour Aloé, la plus belle sensation d'amour?
Comment ça, sensation?
Bah, je sais pas, il y a ton personnage à un moment donné qui dit, par exemple, avec son cœur qui fait boum boum. C'est très beau quand t'écris ça.
C'est d'avoir plusieurs amis mous. Parce qu'avec les amis mous, ça fait boum boum aussi.
Merci beaucoup, Erika.
Merci, Chosic.
Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie d'Erika Nomeni à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'amour de nous-mêmes » aux éditions Hors d'atteinte. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore, Sophie Sand, Séverine Cagnac et Léonie Young au chant et Chien Fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.